Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Ça fait déjà un moment que j'ai pas fait de nouvel épisode. J'ai pas enregistré d'épisode de podcast. J'ai pas de raison particulière d'avoir disparu, si je peux dire ça comme ça. Enfin, si, j'ai une raison particulière, mais bon, je sais pas trop comment l'exprimer, donc. Je fais ce podcast, peut-être ça sera un moyen de relancer la chose, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que me voici, me voilà avec vous et j'ai juste envie de parler, de dire tout ce qui va traverser mon esprit, peut-être vous raconter mon année. Je sais pas si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, mais bon. Voilà, d'ailleurs. Ceux qui lisent mon blog, ceux qui lisent mon blog verront certainement que cet épisode de podcast est en lien direct avec le dernier article que j'ai publié sur mon blog, qui n'a pas de titre d'ailleurs. Donc, on y va. En vrai de vrai, que ce soit au niveau de ma vie privée ou de ma vie professionnelle, je sais plus où j'en suis. Je suis submergé par tellement de choses et je suis sous pression. J'ai l'impression de perdre pied parce que je marche sur du sable mouvant. De temps en temps, je me sens toutes ces hésitations-là, je vais garder ça dans l'épisode. Vous allez écouter tout ça parce que j'ai vraiment envie de parler, de dire des choses, d'être cru, d'être trash, pour une fois, une vraie fois, parce que souvent, on essaie de faire l'effort de maquiller les choses, voyez-vous. Quand on vient sur les réseaux sociaux, notamment, on ne sait plus trop ce qu'il faut transmettre. Je ne sais plus trop ce que je dois transmettre. Est-ce qu'il faut que je montre aux gens, voilà, j'ai réussi à faire telle chose, regardez, j'ai écrit un livre, voilà, mes succès, mes accomplissements, j'ai fait un podcast, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou bien je dois venir aussi parler de mon mal-être. Mais chacun a son mal-être, chacun a sa souffrance, ces choses qui le rongent. Est-ce que les gens ont envie d'écouter ça en fait? On ne sait rien, tu ne sais pas. Mais bon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, donc je dis ce que je veux. Encore une fois, cette année, je n'ai pas eu mon diplôme. Comme en 2017 d'ailleurs, où je n'ai pas eu mon diplôme. Parce que bah, j'ai cessé d'aller à l'école. Cette année aussi, j'ai cessé d'aller à l'école. Pourquoi? Bah, parce que je ne sais pas. À un moment donné, j'ai reculé, j'ai arrêté d'avancer parce que je dirais pas que ça m'intéresse plus l'architecture, vu que j'ai beaucoup bataillé pour avoir l'occasion d'en faire. Ce n'est pas que l'architecture me désintéresse, mais la manière qu'on est censé le faire, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas être dans mon élément. Donc, toutes ces choses-là qu'on me bombarde. En toute sincérité, moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir un diplôme quelconque. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai l'impression que je suis obligé d'en avoir pour prouver je ne sais pas quoi à qui. Mais je connais mes capacités, en fait. Et j'ai l'impression d'être la seule personne au monde à connaître vraiment mes capacités. Et je me demande toujours pourquoi je devrais en fait faire des choses pour montrer à d'autres personnes de quoi je suis capable. Je sais pas, c'est bizarre parce que je sais dessiner des plans, voilà, je sais faire en fait tout ce qu'il faut faire. Je ne sais pas pourquoi. Ça me saoule. Il y a cette peur-là aussi de devenir adulte, tu vois, la peur de devenir adulte dans le sens où Être adulte, c'est assumer, c'est être responsable, avoir la responsabilité de tout ça, être le seul coupable d'une réussite ou d'un échec, d'un accomplissement ou quoi que ce soit d'autre. Et moi, j'ai la trouille par rapport à ces choses-là. Et malgré le fait que je suis conscient de mes capacités, le fait de ne pas avoir de diplôme 7 ans après mon baccalauréat, de ne pas avoir de diplôme universitaire, ne pas avoir une sorte d'accréditation, une sorte de validation de mes pairs, c'est compliqué parce que après, qui suis-je au fond? Je ne suis pas un architecte parce que je n'ai pas de diplôme d'architecte. Je suis pas, puis-je dire que je suis un écrivain? J'écris des trucs, machin. Dernièrement, je voulais participer à une campagne de, c'était pas une campagne de crowdfunding, c'était un truc pour subventionner les artistes. J'avais envie de m'inscrire à ça et parmi les éléments qu'ils nous demandaient de fournir, ils avaient dit de se donner le nom d'un garant, tu vois, une personne dans le domaine dans lequel je travaille qui me connaît. Une personne qui fait le même travail que moi ou qui est dans une instance de dirigeant de quelque chose et qui pourra me valider quelque part, m'accréditer pour dire que ouais, lui, c'est un gars que je connais, je me porte garant de lui et tout machin. Et moi, j'avais aucun nom à citer parce que dans le monde littéraire, moi, je connais personne. Donc, quelque part, suis-je légitime de me considérer comme littéraire si dans le monde littéraire, je ne connais personne concrètement. En fait, quand je dis je connais personne, je veux dire je connais pas des professionnels. Il n'y a aucun professionnel du monde de la littérature, quelque part, qui me connaît et qui m'a validé. J'écris mes trucs, je publie mes trucs, mais c'est entre moi et certaines personnes qui me connaissent personnellement. Et c'est voilà, dans ce petit cercle-là que ça évolue. Je ne peux pas non plus. C'est compliqué. Comment se sentir légitime dans ces histoires-là, en fait? Et pourquoi devrait-on être légitime? C'est des choses dont j'ai déjà parlé, mais ça me turlupine, ça me tracasse beaucoup. Il y a aussi le sentiment d'appartenance que je n'ai pas. Je ne me sens pas appartenir à quoi que ce soit. Je ne me sens pas appartenir à quelque chose. Je suis l'ami de tout le monde, l'ami de personne. Je suis l'enfant de partout, l'enfant de nulle part. Et j'ai l'impression de ne pas avoir de cocon. De ne pas avoir de cocon. De ne pas avoir de nid, d'être un vagabond, un artiste vagabond, une personne qui est juste là comme ça en train de errer. C'est vraiment compliqué. Avant d'enregistrer ce podcast, je n'ai pas du tout structuré mes pensées. Hein. Je me suis levé, j'ai commencé à enregistrer. Là, je suis en train de vous parler, de vous dire toutes les choses qui me viennent à l'esprit parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de prendre la parole. J'aime prendre la parole parce que c'est tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est ma parole, mes écrits, mes idées. C'est tout ce que j'ai pour moi. Et je suis censé gagner de l'argent. Et je suis censé gagner de l'argent avec. C'est compliqué. D'ailleurs, par rapport à mes livres, ça fait un moment déjà que j'en parle plus. Je fais plus de publications sur mes livres. Et mes ventes ne décollent plus sur Amazon. Ça fait un bail que j'ai arrêté de vendre. Durant toute l'année 2021, depuis peut-être mars, depuis mars, j'ai vendu 2 livres sur Amazon. Je ne vends plus. Je ne suis plus. Et le problème, ce n'est pas que ce que j'écris, c'est inintéressant. C'est juste moi qui suis dans l'incapacité de vendre ça parce que je sais pas, j'en ai marre, je suis submergé par tellement de choses. Et en fait, je suis en train de vivre les contre-coups, c'est-à-dire le revers de la médaille de l'indépendance. J'ai tellement voulu être indépendant pour pouvoir faire mes choses par moi-même. Voyez-vous, faisons-le nous-mêmes, c'est mon slogan. J'ai tellement voulu faire les choses par moi-même parce que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre comment ce truc-là fonctionne. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je suis bloqué. Je suis bloqué parce que je pense avoir atteint un niveau où je suis censé passer un cap, mais ce cap-là, je n'arrive pas à le passer. Je dois moi-même être l'écrivain, je dois être l'éditeur, je dois être celui qui fait les... je dois faire tellement de choses. Oh, durant toute cette année 2021, durant même toute cette année 2020, je me suis reposé sur mes lauriers. J'ai pas écrit de livre, j'ai rien écrit du tout. Et je me sens bien de ne rien faire, mais en même temps, je me sens mal parce que je me suis engagé publiquement. Publiquement, les gens me connaissent comme étant un écrivain. Donc, les gens attendent des choses de moi, mais je suis dans l'incapacité de vous fournir ces choses-là, de fournir ces choses-là à ces gens-là qui attendent de moi ces choses. Et me saoule. J'ai essayé de faire ce que je pouvais durant les cinq, durant ces 5 dernières années. J'ai essayé de me chercher, de me trouver, de me comprendre. Et ça marche plutôt bien parce que j'ai réussi à me trouver dans la littérature. J'ai réussi à me trouver dans l'activisme, notamment lutter pour l'égalité des sexes et autres. Et il y a sur moi quelque chose qui pèse, c'est un profond sentiment de vraiment, c'est-à-dire d'imposture. J'ai l'impression de ne pas être celui que je prétends être, celui que je pense être. Je ne sais même pas comment dire ça. Je me dis écrivain, mais le suis-je vraiment? Je me dis pro-féministe, mais le suis-je vraiment concrètement? Est-ce que je ne mens pas aux autres? Est-ce que je ne suis pas en train de mentir à toutes ces personnes qui me lisent, qui me suivent? Je me demande, est-ce que c'est nécessaire? Quelle est la nécessité? Est-ce que c'est important? Est-ce que les gens ont besoin de me lire? Est-ce que les gens ont envie de me lire? C'est fou, parce qu'en fait, s'il y a ce profond besoin au fond de moi de vouloir sauver les gens, c'est parce que j'ai moi-même besoin et envie être sauvé de moi-même, être sauvé de quelque chose que je ne comprends pas, un truc sombre au plus profond de moi quand je me, comme dirait l'autre, quand tu regardes dans l'abîme, quand tu regardes au fond de l'abîme, l'abîme aussi regarde au fond de toi. J'ai vu ça dans un dessin animé, Kengan Ashura. Voilà, c'est pas sorti d'un livre. D'ailleurs, en parlant de livres, moi j'ai lu aucun livre, enfin j'ai pratiquement pas lu de livre tout au long. J'ai pratiquement pas lu de livre tout au long de cette année 2021. Je suis en train de lire Les Traditions et Prétextes depuis février. Je n'ai pas encore fini de le lire. J'ai écouté des livres de développement personnel, des trucs pratiques pour ne plus procrastiner, des trucs pour être concentré sur le taf, mais rien à faire. J'ai lu plein de trucs sur le marketing. Rien à faire, j'arrive pas à les appliquer, ça me semble trop compliqué. Et je me dis aussi, certainement, je suis aussi flemmard parce que, en vrai, je peux compter sur ma famille. Je peux compter sur ma famille si j'ai rien à manger, si j'ai pas d'argent, je peux appeler mes parents, ils vont m'en envoyer. Donc peut-être que c'est ça qui fait que je n'ai pas la pression de vraiment réussir à avancer tout ça. Je sais que je peux compter sur les gens. Et voilà. Et voilà. En même temps, quelque part, je me dis aussi que si on enlève l'argent de l'équation, parce que moi j'ai un vrai problème avec l'argent, dès que l'argent rentre dans l'équation, je perds la boule, j'ai l'impression d'être... Je perds la boule, tu vois, je sais plus quoi faire. Franchement, dilapider l'argent, c'est mon taf, quoi. Je dépense l'argent comme si l'argent n'existait pas, comme si c'était du crachat, tu vois. comme la femme enceinte qui tout le temps elle est là, rap, rap, tout le temps elle crache, moi c'est comme ça avec l'argent. Et c'est un vrai problème parce que on ne se construit pas comme ça, tu vois. Je pense que je peux finir comme un Michael Jackson, tu vois, au sommet de sa carrière et tout. Il était obligé de faire une tournée pour pouvoir rembourser ses dettes. Il est mort endetté. Alors que c'était une super grande star qui a gagné beaucoup d'argent. Ça, c'est quelque chose qui peut m'arriver. Ouais, je vois, quand je vois mon avenir, je vois que c'est quelque chose qui peut m'arriver. Et je me dis, je m'en fous en fait que ça m'arrive ou pas. Je m'en fous. Voilà. Ça m'arrive, on bat les couilles. En fait, c'est compliqué parce que moi-même, j'ai créé cette situation. Personne ne m'a rien demandé. Je me suis levé un matin, j'ai dit, wesh, je suis écrivain, j'ai commencé à faire des publications, à faire des trucs, machin. Et maintenant, les gens ont les attentes. Les gens attendent un nouvel épisode du podcast. Il y a des gens qui attendent un nouveau livre, des gens qui attendent un nouvel article sur le blog, des gens qui attendent, attendent, attendent. Des gens ont des attentes par rapport à moi. Et moi, en vrai, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis paumé de la life. Tout ça me fatigue parce que c'est, faut que je gagne de l'argent avec ça, en fait. Pourquoi? Pourquoi faut-il forcément que je... Pourquoi faut-il forcément que je gagne de l'argent avec? Est-ce que je ne peux pas juste écrire des livres? Et puis, basta. Par exemple, là, je le fais déjà, tu vois, je fais des publications, j'ai des 100 likes. Bonne publication. C'est bon, quoi. Est-ce qu'il faut forcément gagner de l'argent? Est-ce que si je ne gagne pas de l'argent, ça veut dire que tout ce que je dis, ça n'a pas de valeur? Enfin, oui, je sais concrètement, l'argent, c'est censé servir à me payer les choses, tout ça, là, mais peut-être qu'à l'époque où on faisait la chasse, c'était plus simple, plus facile. On est tous des chasseurs, tous. Donc, pour manger, il faut chasser. Donc, celui qui chasse, mange. Et si moi, je chante bien, quoi. Voilà, c'est pas le fait que je chante bien, que j'écrive bien, qui va me permettre d'avoir... Moi, ouais. C'est mieux comme ça, hein. Je sais pas pourquoi les choses sont très compliquées. D'ailleurs, en parlant de chansons, moi je suis un très grand artiste. Je vous invite à aller sur YouTube, taper la béquille. Vous allez peut-être tomber sur l'un de mes sons. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Ou bien sur SoundCloud. Je fais de la musique à une certaine époque. J'ai rappé un très beau couplet, mon meilleur couplet d'ailleurs. Dans lequel je dis, c'est Dieu qui donne, sinon c'est impossible. Je suis écrivain, entrepreneur et je fais du rap aussi. Celui qui me fera prendre, Dieu n'a qu'à me dire tout ça, c'est grâce à qui je me suis nourri de tout. Il n'y a que son amour qui me rassasie. J'ai dû quitter l'asile pour atteindre le paradis. Mon fils, donne ta vie à Christ, c'est ce que papa a dit. De l'homme que je suis devenu, en vrai, il n'était pas ravi. La vérité, c'est que la nuit, moi, je ne lis pas la Bible. N'essayez pas de me juger, sinon vous aurez tort. L'immensité de l'univers ne peut contenir ma force. C'est au Créateur, nos créatures, à qui je fais confiance. Ce texte est beau dans le fond et dans la forme. Seigneur, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Donne-nous la force de vaincre et de régner sur nos nations, nos prières, nos passions. Le matin, tu te lèves en pleine forme sans savoir que la nuit, le mal était dans ta chambre. Dieu existe et il est partout dans la nature. Magnifique. C'est certainement l'un des meilleurs couplets de rap congolais. Mais bon, voilà. On n'est pas des célébrités, nous, donc on ne compte pas dans l'équation. Et je souffre un peu de ça aussi, en fait. Tu vois, ce manque de reconnaissance-là, j'avoue que j'en souffre. Parce que suis congolais. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, maintenant je suis au Sénégal, je suis présent sur les réseaux sociaux. La grande majorité des personnes qui me suivent, qui me truquent, ce ne sont même pas des Congolais. Alors que moi, c'est d'abord à eux que je voudrais m'adresser, mais les Congolais ne me connaissent pas. Ou plutôt, les Congolais qui me connaissent, c'est les Congolais que je connais aussi. Donc, en termes d'impact, j'ai l'impression de n'avoir aucun impact sur mon propre peuple, c'est-à-dire le peuple congolais. J'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils ne savent pas ce qui est de mon travail. Et je ne sais pas comment faire pour les toucher, en fait. Je ne sais pas comment faire pour les toucher parce que quand je prends la parole, je parle avec tout ce qui me compose. Et moi, je ne suis pas que congolais, tu vois. Je suis composé de tout plein de choses. Mon identité est tellement complexe. Mon identité est tellement complexe. Moi, j'ai vécu à Pointe-Noire, à Dolisie. J'ai fréquenté dans une école de bourgeois alors que je vivais dans un quartier de pauvres. J'ai été dans une grande école en Côte d'Ivoire. Actuellement, je suis au Sénégal. Et tous ces éléments-là composent mon identité. Et en fait, c'est comme si je suis l'enfant de tout le monde et en même temps, je suis l'enfant de personne, tu vois. C'est vraiment chiant, en fait. C'est chiant, c'est compliqué. Je suis en train de revenir sur les mêmes choses et je n'avance pas dans la discussion parce que c'est ça, en fait. Je suis prisonnier, je suis bloqué dans un truc, dans un cercle très vicieux et malsain de réflexions qui font que je n'avance pas. Je recule chaque fois que je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Je ne sais pas sur quel pied je dois danser, je ne sais pas sur quoi je dois miser, je ne sais pas. Cette année, j'ai voulu, on m'a conseillé, on m'a suggéré de regrouper tous mes textes que j'ai publiés sur Facebook, de les regrouper dans un recueil et de le publier. J'ai commencé à le faire, mais après, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, mais qui suis-je? Qui suis-je en fait? Tu vois, il y a des gens, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils luttent pour les droits des femmes. Ils n'ont même pas publié de livre. Et moi, qui suis-je pour écrire un livre sur ça, pour publier un livre sur ça, pour demander aux gens de l'acheter? Et tellement je pense ne pas être pertinent, j'avais même prévu faire ce livre-là gratuit. Tu vois, genre un livre gratos ou bien un livre payant, mais dont 100% des bénéfices devaient être reversés à une association qui lutte véritablement pour les droits des femmes. Mais tout ça, j'ai laissé tomber parce que je me dis, mais oh, je suis personne, tu vois. Je suis personne. Et je ne sais pas, en fait. Il y a ce truc-là qui te bouffe à l'intérieur. Tu as vraiment l'impression que Je pense que je vais changer le nom de mon podcast, d'accord? Je vais l'appeler Confession. Au début, ce podcast s'intitulait Rendez-vous en 2026, d'accord? J'ai oublié c'était quoi le concept, mais c'était rendez-vous en 2026. Je devais venir parler de mes expériences, de mes trucs, machin, en attendant 2026 où j'aurai 30 ans comme Jésus-Christ et où il a commencé son ministère. Parce que quelque part, j'estime que tout ce que je fais actuellement, c'est juste du brouillon, tu vois. Tout ce que je fais depuis que j'ai 20 ans, depuis 2016, c'est du brouillon. J'ai lancé une entreprise, j'ai fait ceci, tout ça, c'est juste des tests. Je suis en train d'essayer des choses. Et moi, quelque part, si je recule, si je n'arrive pas à avancer aussi, c'est parce que je ne suis pas dans une logique de là, je suis une ogive nucléaire, je vais pour tout exploser. Non, moi, je suis en train de tester, d'essayer, en fait. Tout ce que je fais là, c'est juste pour essayer, pour tester. C'est pas forcément ce que je veux. Je veux pas que dans 60 ans, j'ai pas forcément envie d'être reconnu comme un écrivain, ni comme un entrepreneur, ni comme un. Je sais pas, moi, j'ai plus. Je sais pas ce que je veux. Je veux tout ça. Je veux toutes ces choses-là. En tout cas, je veux les expérimenter toutes. Et j'ai l'impression que quand je me lance dans un projet, dans un truc, et que ça, au fur et à mesure que j'avance, ça commence à durcir, ça commence à durcir, à se concrétiser. Et j'ai peur de finir enfermé là-dedans, de ne plus pouvoir en sortir, de ne plus pouvoir. Par exemple, moi j'ai eu à faire du rap, et ça fait un moment que je ne rappe plus, et que je ne parle plus de ma vie de rappeur, parce que j'ai l'impression que ma vie d'écrivain et ma vie de rappeur, ce n'est pas la même chose, et que si je parle de ma vie de rappeur en tant qu'écrivain, je mélange tout, et que je ne devrais pas faire ça. Alors que tout ça, c'est moi en fait. Je suis tout ça. Je suis pas. Je suis tout ça. Et j'aimerais pouvoir être tout ça, mais j'ai l'impression que la société, que la structure sociale, la manière que c'est construit, ne me permet pas d'être toutes ces choses en fait. Ça ne me permet pas d'être quelqu'un de complexe. Il faut que je simplifie qui je suis pour que les autres puissent pouvoir me comprendre. Mais, excusez-moi, mais rien à foutre que vous me compreniez en fait. Et rien à foutre que vous me compreniez. Et en plus aussi, quand on revient encore sur le fait d'être compris ou pas, Et souvent, en fait, moi, j'ai un problème aussi avec les gens qui parlent du fait que, ouais, on les comprend pas. Parce que parfois, en fait, c'est eux-mêmes qui sont incapables d'exprimer qui ils sont. Et ils font comme si ce sont les autres qui refusent de les comprendre. Et moi, je pense ça aussi. En même temps, je pense ça. Je pense que si tu réussis à bien exprimer, à bien expliquer qui tu es, bah, les gens qui vont te comprendre. En fait, tout le monde n'est pas obligé de te comprendre. Si cinq personnes te comprennent, normalement, ça devrait te suffire. Ça devrait te suffire. Tu n'as pas besoin que mille et une personnes te comprennent. Et là, je suis pas en train de faire la morale à vous, je suis en train de parler à moi-même. Hein? Restons concentrés. Je suis en train de me parler à moi-même, en fait. Donc, moi, Wanief, si aujourd'hui je suis incapable de faire comprendre aux gens que tout autant que je suis un rappeur, tout autant que je suis un slammer, tout autant que je suis un écrivain, tout autant que... Enfin, je suis toutes ces choses-là. Et avec toutes ces différentes voix-là, c'est le seul et même message que j'essaie de véhiculer. Même si c'est vrai qu'à l'époque où je faisais du rap, j'étais un peu plus sexiste que depuis que je suis écrivain. Parce que, voilà, disons-le clairement, j'avais des textes un peu olé olé. C'était pas juste être trash pour être trash, mais c'était vraiment dans une logique perverse, malsaine. Et c'est malheureux, mais c'est la vérité. Et moi, bah, j'aime bien la vérité. Voilà. Donc, IVPP, Omoroyébi, déjà, Institut de vérité, pour les net, ma film, toujours. Mais le sujet n'est pas là-bas. Pour en revenir à tout ce que je disais, je ne sais pas ce que je disais concrètement, mais comme je disais, hein, ici, on parle de tout et de rien. Je vais vous déverser toutes mes frustrations parce que j'en ai plein. Je suis un gars plein de frustrations. Je suis frustré sur tous les plans. Je suis frustré sur tous les plans parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont moins bien que moi dans plein de domaines, mais qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Et c'est pas, c'est, ils le méritent parce qu'ils ont travaillé pour l'avoir. Et moi, je ne travaille pas suffisamment pour avoir ce que je mérite, tu vois. Pourtant, j'ai tous les outils qu'il faut, mais comment les utiliser, comment les assembler, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses. J'ai envie d'avoir une équipe, j'ai envie de me sentir entouré parce que je me sens beaucoup trop seul maintenant. Depuis un moment, je me sens beaucoup trop seul. Je fais ce podcast tout seul. Je fais trop, il y a trop de choses que je fais seul et ça me bouffe de l'intérieur, ça me tue parce que, en fait, je suis moyen partout. Voilà. Je suis moyen dans tout ce que je fais, en fait. Je suis dans la moyenne. Et en fait, pour exceller, apparemment, il faut se spécialiser, tu vois. Il faut se fixer, il faut te fixer sur un truc pendant un certain temps jusqu'à... Voilà, c'est comme ça qu'on était. Et moi, j'ai du mal à exceller parce que je suis obligé, en fait, tu vois. Au lieu d'écrire un nouveau livre, faut que j'apprenne des techniques de marketing pour vendre l'ancien. Et pendant que je fais ça, je suis pas en train de perfectionner mon écriture. Et pendant que je ne perfectionne pas mon écriture, je ne lis pas. Pendant que je ne lis, donc c'est compliqué. J'arrive pas à gérer, j'arrive pas à m'organiser parce que c'est vraiment chiant en fait. La grande solitude dans laquelle je suis depuis que je me suis lancé dans tout ça, toutes ces choses-là, ça me fait 5 ans de solitude. Enfin, disons 4 ans parce que ça fait 1 an que je ne suis plus tout seul. Je partage ma vie avec quelqu'un. Et je dois avouer que c'est plaisant de partager sa vie avec quelqu'un. C'est vraiment plaisant. Et en fait, je suis tellement habitué à être seul. Et physiquement, je suis seul parce que c'est une relation à distance. Mais ouais, ça va. De ce côté-là, au moins, ça va. Et le fait que les choses se passent bien dans cette partie-là de ma vie, ça me fait me dire qu'il faut que je travaille encore plus dur. Il faut que j'avance. Et ça me fait encore me demander si réellement je suis sur la bonne voie, tu vois. Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? C'est vraiment compliqué tout ça parce que... Bof. C'est chaud. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis dans une spirale. Une spirale. Ouais, c'est dur, j'avoue. J'avoue que c'est dur. Interlude. Et je me dis, il faut vraiment, en fait, il faut vraiment que je me bouge le cul, tu vois, parce que je peux pas rester là. Et je sens que tout ce bouleversement, tout ce moment de franchise envers moi-même, franchement, je trouve ça bien. Je me sens vraiment bien, en fait, de pouvoir exprimer toute cette rage profonde, tout ce désespoir, en fait, qui est enfoui en moi. Et je me dis en vrai de vrai, hein, en vrai de vrai de vrai, je vais exploser. C'est-à-dire, je dois en fait, c'est comme ça qu'il faut que je sois. Cash, sans filtre. Enfin, il faut filtrer certaines choses, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que moi dans ma vie. Il y a plein de personnes dans ma vie, des gens qui peut-être ne veulent pas être exposés. Donc, s'il faut que j'expose, je m'expose moi. Mais moi qui? Lequel des moi? Bah, tous les mois. Parce que c'est comme ça qu'on fait une année. Il y a besoin de tous les mois pour faire une année. Gardez cette blague-là. C'est cadeau. Tiens, go. Tac-tac. Surprise. Net un film. Propre. Et concrètement, je me dis, nous sommes tous paumés, en fait. Genre, nous sommes tous des paumés de la vie, nous sommes tous des fatigués, nous sommes tous des gens. Voilà quoi, on est tous paumés. Tous. Y a pas un pour attraper l'autre. On est tous paumés, tous foutus. Et on essaie de, je sais pas moi, de se convaincre que ça va aller. Quand je dis tous, je parle de chacun des moi, pas de vous et moi. En tout cas, dans tout ce que je dis, je parle que de moi, quoi. C'est vraiment de l'ego trip triste et mélancolique sur fond de. Non, pas des regrets. J'ai pas de regrets. Par contre, on parle de ça. J'ai aucun regret, tu vois. J'ai aucun regret. Mes parents ont dépensé des millions pour mes études. J'ai pas eu de diplôme. J'ai arrêté mes études deux fois. Et je regrette pas. Franchement, j'ai aucun regret. C'est juste de l'argent. Voilà. C'est juste de l'argent. Et c'est pas si important que ça. Voilà, c'est tout. J'ai aucun regret. Et je dis merde. Tu vois, je dis merde. Je dis merde. Et j'en ai marre d'attendre, en fait. Je sais pas pourquoi, mais en vrai, tout ce que j'ai fait, je me suis dit, je fais et j'attends peut-être, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'attends, mais j'attends, mais j'en ai marre d'attendre. Je vais plus attendre. Je vais aller chercher ce qui me revient de droit. Tu vois, en fait, tous ces trucs-là, c'est. Tous ces. Toutes ces histoires de légitimité, je ne sais pas quoi, machin, nanana. Je l'ai déjà dit dans un article, dans un truc que j'ai publié, que voilà, la légitimité, en fait, il faut aller la chercher. Et je devrais appliquer moi-même mes conseils. En fait, la plupart du temps, je les applique, mais après, je les oublie. Hier, j'ai relu un de mes articles, Assume ta rébellion. En fait, je l'ai écouté parce que je l'avais enregistré et je l'avais publié sur Instagram. Non, c'était avant-hier. Que je l'ai réécouté. Et en fait, je me suis dit, merde, mais attends, moi, je dis des trucs profonds de ouf, hein. Waouh! Chaud. Et c'est, tu vois, en fait, c'est ça. C'est pour ça que les enfants des pasteurs, là, ils suivent pas trop leur père, ils déconnent un peu. Parce qu'en vrai, les gens qui te connaissent dans ton intimité, en fait, ils savent à quel point tu es un flemmard. Donc, quand tu viens devant les gens et puis tu dis, travaillez, venez de la peine, c'est l'effort. Qui marque les moins. La bête à Libanga, pote na zoua moussono. La moto qui na yonde, ozi li foutaye. La balaka bibi yo yo yo. Le bae le mot et yo. Quand tu fais un truc comme ça, en fait, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais les gens qui te côtoient tous les jours, ils savent que lui, c'est un flemmard. Donc, voilà, on s'en fout de ce qu'il dit. Mais c'est les gens qui te... Parce que, comme on dit souvent, à beau mentir qui vient de loin, c'est les gens qui ne te connaissent pas, qui te croient et qui t'écoutent. C'est pour ça que, voilà, ces gens, ça te soutient. Et en plus, voilà, si on commence à te prendre hyper au sérieux après, ça devient trop mystique, tu vois. Ça perd une sorte de mystification. On ne peut pas... Voilà, on peut pas aduler une personne qui est proche de nous, c'est impossible. On ne peut pas voir cette personne aussi grand qu'elle est. Parce que, je veux dire, tu es à côté de moi, tu vois, tu as la possibilité de me regarder dans les yeux. Ça fait que tu ne peux pas me regarder de bas, en fait. Tu ne peux pas être bas et me voir parce que tu es à côté de moi, donc tu me vois dans les yeux. Et tu vois ce qu'il y a dans mon regard. Alors que les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir à travers un podcast, à travers un livre, à travers un truc, eux, ils peuvent pas te voir dans les yeux, donc ils te voient de loin et donc ils ont l'impression qu'ils sont hyper gros. Et il y a que ces gens-là en vrai qui peuvent te soutenir et autres. Les gens de ta famille, tout ça, ces gens-là sont pas obligés du tout, hein, de te soutenir ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà quoi. Voilà quoi. J'ai parlé, j'ai beaucoup parlé. Je sais même pas si j'ai dit ce que j'avais envie de dire, mais bon, au cas où ça n'a pas été dit, je reviendrai peut-être dessus. Et puis voilà. En attendant d'avoir d'autres choses à dire. Attendons d'avoir d'autres choses à dire. Ce que j'avais à dire, c'est ça. Voilà un peu, c'était une petite virée dans mon esprit pour voir un peu ce qui s'y passe. Et il ne s'y passe pas grand-chose de bien. Je suis pas en mode dépression. Hein, c'est pas une dépression. Je suis pas dépressif. Je suis pas en train de faire une dépression. Mais je suis en mode suppression. Voilà. Je vais supprimer les choses. Me supprimer moi-même, c'est de l'autosuppression. L'autosuppression, j'allais dire l'autosuppression, mais ça ne dit pas. C'est de l'autosuppression et on est dedans. On est dedans et c'est chaud. C'est chaud et c'est bon et c'est bouillon et c'est juteux. C'est exceptionnel. Voilà. Normalement, cet épisode, ça devrait être un brouillon, mais je vous balance ça comme ça. Faites ce que vous voulez de ça. Vous voulez l'écouter, l'écoutez. Vous voulez pas l'écouter, l'écoutez pas. C'est pas grave. On est ensemble et c'est le plus important. C'est vraiment le plus important parce que, disons-nous les choses concrètement. Moi, je sais. En fait, en vrai, le vrai, tout a déjà été accompli en fait dans mon esprit. Tu vois, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Prenons quelqu'un comme Jésus-Christ. Le gars, on dit, il est la matérialisation de Dieu sur terre. Donc ça veut dire que quelque part, il est Dieu. Donc puisqu'il est Dieu, c'est qu'il est omniprésent, omnipotent, omni, voilà, tout ce que tu veux. Et il sait déjà tout ce qui va se passer. Mais il s'est obligé lui-même à vivre pendant 33 ans sur terre. Pour réaliser quelque chose qui, dans son esprit, avait déjà eu lieu. C'est pénible, hein? C'est frustrant, en fait. Waouh, j'imagine la frustration du Christ. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les 33 ans qu'il était sur Terre, en vrai, il n'a pas fait d'expérience nouvelle. Enfin, si, c'était une nouvelle expérience, dans le sens où c'était concret, matériel, physique. Là, il a ressenti dans sa chair, puisqu'il a eu une chair. Mais vu qu'avant, il n'était qu'esprit, et que son esprit avait déjà vécu tout ça, c'est-à-dire tout ça, même le portrait, maintenant, il l'a déjà vécu. Et il s'est obligé lui-même à s'incarner sur Terre. Et pendant 33 ans, il s'est obligé lui-même à vivre tout ce qu'il a vécu là pendant 33 ans. Je me demande comment le Christ a fait pour ne pas... En fait, je me demande s'il était patient ou pas. Parce que le gars, en vrai de vrai, le gars, depuis le jour de sa naissance, il était déjà Christ. Pourquoi a-t-il attendu 30 ans, se faire baptiser par Jean, machin? Pour commencer son évangile, tu vois, à l'âge de 12 ans déjà, il allait faire des débats dans les synagogues. Mais pourquoi le gars, en fait, il a attendu? Non, mais c'est un niveau de patience là, terrible. C'est pas pour rien que c'est lui le Christ et pas moi. Imagine même le gars quand il se retrouve aux noces de Cana et que sa daronne lui dit, sa daronne Marie, sa daronne lui dit, appétit, tout, 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 le vin est nif, voilà, il n'y a plus le vin, donc il faut faire quelque chose, tout ça, tout ça. Il tient qu'à sa daronne, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Ah, mon Godo. Mais c'est chaud. Et en fait, moi, personnellement, je suis un peu dans ce parce que dans mon esprit, j'ai déjà accompli toutes ces choses. J'ai déjà vécu tout ça, en fait. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Et mon corps est obligé de vivre ça. C'est frustrant parce que je me dis, mais putain, j'ai déjà ces choses-là. Mais je suis obligé de faire. En fait, ce qui est vraiment pire dans tout ça, c'est que quand ton esprit vit ces choses-là, l'esprit, il est intemporel, tu vois. Donc, les choses que Jésus a pris 33 ans pour accomplir, son esprit l'a vu en une fraction de seconde. Peut-être même des nanosecondes. Ça fait que y a aucune échelle de temps là-dedans, tu vois. C'est-à-dire, les 33 ans de vie de Jésus, son esprit l'a vécu. Son esprit l'a vécu, en fait, en quelques nanosecondes. Ça fait que son corps, parce que le corps, lui, il est soumis au temps. L'esprit n'est pas soumis au temps, mais le corps est soumis au temps. Donc, son corps qui est soumis au temps a été obligé de subir 33 années. Et pendant ces 33 années-là, pendant 30 ans, il se passe pratiquement rien. Moi, je me demande toujours qu'est-ce que Jésus faisait de sa naissance à son 30e anniversaire. Il faisait quoi, le gars? Il faisait quoi, le bougre? Est-ce qu'il se préparait à être le Christ? Mais il était déjà depuis qu'il est né. En vrai, il n'est pas devenu Christ sur la croix, en fait. C'est-à-dire, c'est pour nous qu'il est devenu Christ sur la croix, mais sinon, il a toujours été Christ depuis sa naissance. Idem avec Mahomet, enfin, Mohamed, paix sur lui. Prophète Mohamed, paix sur lui. C'est-à-dire, le gars, c'est à 45 ans qu'il est devenu le prophète, machin, tout ça. 45 ans, je pense, si je ne me trompe pas, hein, ou bien je confirme avec l'âge de sa femme. En tout cas, cette question, c'est qu'il était déjà un adulte, voilà, un homme déjà très grand, très adulte, très vieux. Il avait déjà vécu pratiquement toute sa vie. Et c'est là qu'il va commencer cette nouvelle vie-là. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est chaud. C'est chaud. Cette frustration-là, parce que ça fait, en fait, ça fait 25 ans que dans ma vie, il se passe. Il ne se passe pas ce qui est censé se passer, ou plutôt il se passe rien de concret par rapport à, on fait même pas rien de concret. En fait, il se passe des trucs concrets, mais ça a l'air d'être insignifiant par rapport à tout ce que je sais être capable de faire. Et je suis obligé, en fait, de vivre 25 ans de sécheresse, de vache maigre. C'est chaud, hein? C'est chaud. Ça, c'est vraiment de la philosophie de comptoir, hein? Et j'ai rien bu. Enfin, j'ai pris le riz au lait le matin, mais j'ai rien bu. Il est 17h06 sur moi ici, le 4 août 2021. Et je ne sais pas en fait à quel moment ce sera le moment. À quel moment ce sera le moment concrètement. Je ne sais pas. Donc en fait, je suis obligé. Ok, c'est pas grave. On va faire avec. Pas de souci. Normal, quoi. Normal. Ah, ça me sidère. Me sidère, ouais. Waouh. Ok. Ok, on va faire avec. Ok, on va faire avec. Je vais terminer cet épisode en vous lisant le dernier article que j'ai publié sur mon blog. Et voilà, si vous êtes fatigué, bah, ça fait déjà 30 minutes que vous m'écoutez dire des conneries, vous pouvez directement aller sur mon blog, goularwanir.com, et vous allez lire cet article. En 2020, j'ai créé une page Facebook. Aujourd'hui, je suis à plus de 1000 abonnés et malgré les remarques pertinentes, voire insistantes de ma copine au sujet de la nécessité d'être plus actif sur cette page, je n'y vais pratiquement jamais. J'ai beaucoup de mal avec cette page Facebook. Chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que je dois devenir une autre personne. J'ai l'impression que je dois modifier ma façon de communiquer afin d'être professionnel, d'être pris au sérieux. Être pris au sérieux. Certainement mon plus gros complexe, le syndrome de l'imposteur, mon problème majeur. Chez moi, ce syndrome est certainement multiplié par 10, car lorsque je cherche dans tous les domaines où j'exerce, je ne vois aucune option, aucun argument de légitimité. Le féminisme? Je ne suis même pas une femme pour commencer et pour la suite, n'en parlons même pas. La littérature, j'étais nul en français durant tout mon cursus primaire jusqu'au secondaire et j'ai lu mon premier roman en terminale. L'entrepreneuriat, la seule entreprise que j'ai lancée a fait faillite avant même de commencer à sérieusement fonctionner. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2014 et 7 ans plus tard, je n'ai toujours pas de diplôme universitaire, donc je ne peux même pas prétendre être un technicien en bâtiment ou un aspirant architecte. Sur mon profil personnel, je me sens à l'aise de poster chaque jour, à chaque heure, parce que c'est amusant. Je m'y sens comme dans ma tête et je m'en fous d'y être jugé sur mes compétences ou autres, mais ici c'est différent et cela me tourmente. Je suis tourmenté par l'avenir, par ce que je suis censé devenir. Dans cette société compétitive où il faut se comparer à l'autre ou à soi-même, se surpasser l'autre ou soi-même, difficile de réellement prendre la température de son âme. Les ports sont bouchés par l'enculade capitaliste. Mais ce serait totalement faux de tout mettre sur le dos du capitalisme. Ce serait totalement faux. En réalité, peut-être que je me sens illégitime parce que lorsque j'éteins mon téléphone portable, je ne passe pas mes journées à lire ou écrire ou encore à aider des femmes victimes de viol. Non, je glande devant Netflix ou Prime Video. Certainement, je me sens illégitime parce que chaque centime que je gagne avec mes livres fini dans je ne sais quoi, car j'ai un gros problème pour gérer mes finances. C'est une vraie torture. Et comme avec la masturbation et le porno, je ne fais rien pour arrêter. Gars, je te dis que ma vie commence lorsque j'allume le téléphone. Souvent, je me demande si je serai toujours activiste et romancier le jour où ils fermeront définitivement Internet. C'est tragique. Mes vices, mes démons, loin du glamour et des speeches de motivation pour pousser chacun à se développer personnellement, ce rêve surréaliste vendu à des individus mal dans leur peau, en quête de renouveau, de changement, mais rarement engagés à changer. Je suis l'un d'eux. Il y a 5 ans, j'étais mal dans ma peau. Je ne croyais même plus en l'existence de Dieu. J'avais besoin d'une béquille suffisamment solide pour me porter. C'était plus simple de prendre une béquille plutôt que d'essayer de réparer mon cœur fracturé. J'ai abandonné mes études 2 fois. Sous prétexte que ça ne m'intéressait plus ou que les cours n'étaient pas au niveau, alors qu'en réalité, le problème, c'est que j'ai peur de grandir et d'assumer les responsabilités qui s'attachent à cette fonction. Oui, finir mes études et devenir autonome, c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a 2 ans, vignette. Que ce soit à l'école ou dans mes projets ou dans mes autres projets, chaque fois que l'objectif est près d'être atteint, chaque fois que les étoiles s'alignent devant moi, je recule. Normalement, il y a 2 ans, mon entreprise, en Mistor, devait me rendre autonome. Mais je me suis cassé la figure exprès. Mon livre, Et du bonheur au rien, pouvait dès l'année passée me permettre de subvenir à mes besoins, mais rien n'y fait, j'ai reculé. En plus, tel un drogué, ce texte, c'est juste un petit moment de lucidité. Bientôt, je vais retomber dans les mêmes travers, recommencer éternellement ce cercle vicieux et destructeur. Je suis certainement l'un des meilleurs auto-saboteurs, on devrait me payer pour ça. Je refuse de travailler en entreprise parce que je n'ai pas l'humilité d'accepter de suivre la vision d'une autre personne. Je fais tout pour ne pas évoluer malgré tout mon potentiel. Sincèrement, si dans 20 ans je finis sous un pont avec un cancer des poumons et 1 milliard de dettes sur la tête, nul besoin d'accuser les sorciers ou l'État qui n'aide pas les artistes. Non, non, revenez lire cet article. J'écris ceci parce que désormais je m'en fous de me promettre à moi-même de changer alors que je ne veux pas. J'en ai marre de culpabiliser pour tout ça. Je ne veux pas être une personne normale avec une vie normale. Je veux ma petite vie atypique et alien que pourra. Irresponsable, me direz-vous, certainement. Mais sachant que si je n'avais pas des frères et sœurs, si je n'étais pas fils aîné, je n'aurais même pas créé un compte Facebook ou encore essayé de chercher de l'argent ou encore essayé de chercher l'argent ou autre. Ma motivation, c'est eux. Ils, elles sont ma force, mon moteur. Je suis prêt à tout pour eux et elles, sauf peut-être aller contre ma nature profonde. Et c'est là que ça coince. Ma nature profonde paresseuse est en conflit avec mon besoin insatiable de tracer un chemin radieux pour ma famille. Et jusqu'à présent, c'est ma nature qui l'emporte. Ce texte n'est absolument pas un appel au secours ou une demande d'assistance. C'est une vomissure sur un tapis doré. En vrai, je suis au bord du gouffre. Laissez-moi tomber, car pour changer, il faut que je souffre. J'en ai fini.